On va encore prier. Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que c'est toi qui l'as faite avec tout ce qu'elle contient. Merci pour la communion avec les croyants ici, dans cette salle, dans cette région, mais aussi sur toute la surface de la terre et à travers l'histoire. Merci pour cette belle et grande communauté de tous ceux qui ont été rachetés par ton sang et par ton nom. Te demandons ce matin que nous puissions dans ce moment ensemble te glorifier, te connaître mieux, comprendre mieux tes pensées. Et nous voulons encore être éblouis, émerveillés par tes plans, par ta façon de voir, de faire, d'être, afin que nos vies en soient transformées, Seigneur. Amen. Continuons notre voyage dans l'Épître aux Romains et nous arrivons ce matin deux versets magnifiques dans Romains 3, 25 et 26. Je vais les lire avant d'aller plus loin. C'est lui, lui étant Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Ça a l'air un petit peu complexe comme formulation. Ça parle d'une réalité qui est magnifique, qui me touche beaucoup. Et je pensais si donner un titre à ce matin, beaucoup connaissent le film ou les films, je pensais à « Retour vers le futur ». Pour ceux qui ont vu ces films, c'est l'histoire de quelqu'un qui a inventé une machine à remonter le temps, et puis ben, il va dans le passé, mais ce qu'il fait dans le passé change le présent, du coup, et puis ça se répercute comme ça dans tous les sens. Hein. Vous allez voir comment ces choses-là sont liées. Et toujours en introduction, pour nous, forcément, parce que nous sommes soumis au temps, nous voyons l'histoire comme une ligne linéaire, hein. Notre naissance, on grandit, et puis un jour, notre vie se termine. Et lorsque nous étudions l'histoire en général, ben, on l'étudie quand même souvent, pas toujours, mais souvent, de façon chronologique. Hein. L'apparition de la vie sur la Terre, etc. Là, et puis cette période, ben, la venue de Christ qui marque le début de notre ère, et puis etc. etc. C'est une façon de faire, elle est correcte, parce que le temps est une réalité pour nous. C'est pas la seule façon de considérer l'histoire. Et ce matin, on va considérer l'histoire de l'humanité d'une façon différente. Hein. Et vous allez voir que, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais essayer de vous présenter ça de façon très simple. Mais ça serait plutôt comme si on avait une immense carte avec un point central. Et puis, vous savez comment on fait ça avec une petite ficelle et puis une petite punaise la planter partout. Hein. Et puis il y a des points partout, mais tous sont reliés à un point central. Bien sûr, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir que ce point central, c'est Christ. Mais on va voir comment l'histoire de l'humanité est reliée à Christ, l'histoire passée, l'histoire présente et l'histoire future. Et pour ça, j'aimerais vous lire ou vous raconter quelques histoires vraies, qui se passe à des périodes très différentes. La première se passe 1200-1300 avant Jésus-Christ, à peu près, c'est pas très précis. Moyen-Orient, il n'y avait pas encore des... Les montres suisses n'existaient pas pour mesurer le temps avec autant de précision, mais voilà. Et puis, le temple n'existait pas encore. Ce qui allait devenir le peuple d'Israël était une tribu semi-nomade qui se promenait dans le désert. Et... un membre de la tribu qui était affecté au service de Dieu, les descendants de Lévi, les Lévites, a commis un péché. Et puis c'est une affaire grave parce que il doit se présenter dans la tente où on rencontre Dieu. Et puis il sait qu'un homme pécheur qui se présente devant le Dieu saint, il peut être foudroyé. Et puis ils connaissent les histoires hein, avec Moïse, c'est pas si vieux que ça. Toutes ces histoires où des gens ont voulu jouer, ou en tout cas, n'ont pas compris le sérieux de la sainteté de Dieu, et puis le feu du ciel leur est tombé dessus, ou ils sont morts, ou il y a eu beaucoup de choses terribles comme ça. Donc c'est quelque chose qui est très très important, hein. C'est pas quelque chose qui va vivre à la légère, en y allant comme ça, cool, un machin, un chewing-gum, ouais, je vais m'approcher de Dieu. Il sait pas s'il va revenir vivant de cette histoire-là. Et vous trouvez ça dans Lévitique 4, de 3 à 12. Et il se lève, et ce jour-là, il sait que pour le pardon de ses péchés, il a besoin d'un animal. Alors il va dans son enclos, il a réservé pour ça un jeune taureau, pas n'importe quel animal, hein. Une belle bête, il ne faut pas qu'elle soit abîmée, il ne faut pas qu'elle soit avec des défauts de naissance, il faut que ce soit une des plus belles, jeune, en pleine santé, un mâle. Et puis, le taureau est un peu inquiet parce qu'il sent qu'il va se passer quelque chose qu'il ne va pas trop apprécier. Et ils partent ensemble jusque dans la tente où il doit rencontrer Dieu. Et là, il y a tout un rituel qui se passe, et je vous le lis. Il amène le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il pose sa main sur sa tête et il l'égorge devant l'Éternel. Alors nous, on lit ça ici le dimanche matin, bien aseptisé, hein, mais vous vous rendez compte ce que ça fait d'égorger un taureau, quoi. Ça gicle de partout, il y en a, la bête se débat un petit peu. C'était pas comme nos rassemblements très. Hein, il est là tout seul. Et puis toujours avec cette idée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rentrer vivant à la maison à midi, ou est-ce que le sol va s'ouvrir et je vais tomber dedans, ou est-ce que le feu du ciel va tomber? C'est déjà arrivé. Hein. Et puis il y a un autre prêtre qui est là, qui a reçu l'onction, qui s'appelle Amram, lui. Prend du sang de la victime et l'apporte dans la tente de la rencontre. Alors, c'est pas une petite goutte de sang, hein, il a une bassine avec des litres de sang, et puis il se déplace dans la tente de la rencontre avec ça. Et là, il trempe son doigt dans le sang et il asperge 7 fois le voile du sanctuaire devant l'Éternel. Le sang qui gicle de partout. Et puis, il prend encore de ce sang et il en met sur les 4 coins où il y avait des cornes de l'autel. Puis il en pose dessus, comme ça. De l'autel des parfums aromatiques devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il répand le reste du sang du taureau sur le socle de l'autel des holocaustes situé à l'entrée de la tente de la rencontre. Ensuite, il enlève toute la graisse du taureau du sacrifice. Vous avez déjà fait d'enlever la graisse d'un animal de la taille d'un taureau? Ça prend du temps, ça prend plus d'une heure à faire comme travail. C'est un travail de boucher dans le sens littéral du terme, hein. Puis celle qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les enveloppe, qui couvre le flanc, ainsi que le lobe du foie qui lotte avec les rognons. Ils avaient une formation pratique, hein. Ils avaient un vrai métier. Comme on le fait pour le sacrifice de communion. Et puis, il va les brûler sur l'autel des holocaustes. Vous savez comment ça sent, la viande, quand on la brûle? C'est pas agréable comme odeur, hein. Et il fait brûler tout ça là-dessus. Et puis, il prend la peau du taureau, toute sa viande, sa tête, ses pattes, ses entrailles, avec leur contenu. Je sais pas ce qu'il avait, des paniers, les brouettes n'existaient pas encore, mais hein, il faut transporter tout ça. Et tout le reste du taureau. Et puis, il l'emporte hors du camp, en un lieu rituellement pur, où sont déversées les cendres grasses, et il le brûle sur un feu de bûche, à l'endroit où l'on déverse les cendres. Ça a pris au moins 2 heures, cette opération-là. Il y a du sang partout, les gens sont fatigués, ils ont travaillé, c'était compliqué. Hein. Mais cet homme, ce prêtre, qui s'appelait, j'oublie de dire son nom, Yitzhar, rentre chez lui en paix. Il sent au fond de lui que ses péchés lui sont pardonnés. Sa conscience est libérée. Puis surtout, il n'est pas mort. Il va pouvoir encore vivre avec sa famille, dans sa tribu. L'Éternel ne l'a pas détruit. Il a échappé à une mort certaine. Et puis, la vie va continuer. 1200, 1300 ans avant Jésus-Christ, ça se passe comme ça. Là, je vous lis une autre histoire, hein, beaucoup plus proche de nous, mais quand même un peu loin. 1532, Neuchâtel. Monsieur Guillaume Viré, un marchand prospère de Neuchâtel. 5h30 du matin. Guillaume se lève, allume une bougie sur le chandelier et enfile ses chausses et sa tunique. Il a mal dormi. Il sait qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait hier. Oui, c'est humain. Beaucoup d'autres le font aussi, mais il ne peut pas faire taire la voix de sa conscience. Il se souvient du message de ce réformateur, Farel. Il s'appelle Guillaume, comme lui d'ailleurs, qui est passé plusieurs fois à ce qui était avant la cathédrale catholique, mais qui a été nettoyé. avec un peu de furie. Avant, c'était plus simple quand sa famille et lui étaient encore dans la bonne religion catholique. Il allait à l'église, il savait ce qu'il devait faire. Il confessait ses péchés, il donnait de l'argent, il avait l'absolution, et puis il rentrait chez lui. Mais il a été touché par le message de Guillaume Farel. Et puis, il ne croit plus vraiment que l'argent qu'il donne au prêtre peut suffire pour le pardon de ses péchés. Alors, il est là, et puis il tourne un peu en rond dans sa chambre, et finalement il se décide, il ferme la porte à clé, parce qu'il n'aimerait pas que les serviteurs rentrent et le surprennent comme ça. Il se met à genoux au pied de son lit, et puis il se rappelle ce qu'il a entendu, et il se rappelle du texte de Romains 3, 25, 26, et des autres, et puis il dit, Seigneur, j'accepte que tu aies donné ton fils, qu'il ait versé son sang pour mes péchés, et je te demande de me pardonner, et je reçois le pardon de mes péchés. Il a les yeux fermés, les mains jointes, et puis il attend un peu, puis il se relève, et puis effectivement, sa conscience est libérée, et il se sent pardonné, et il rouvre la porte, il part travailler, en fredonnant l'air du cantique que Luther a écrit, c'est un rempart que notre Dieu. On va un peu plus loin, 1965. L'endroit est difficile à situer parce qu'on n'avait pas de GPS, même à ce moment-là. Il y en avait, mais il n'y en avait pas. Hein. Quelque part dans la forêt primitive entre la Colombie et l'Équateur. Immobile, appuyé sur une souche morte, Yuro ne fait qu'un avec la forêt. Il en connaît les moindres bruits, les moindres odeurs. Elle est sa vie, sa maison, c'est elle qui le nourrit. Il a grandi là, il est né là, il va mourir là, il le sait. Il attend avec sa longue sarbacane avec les flèches empoisonnées. Il bouge pas derrière une branche, il attend qu'un singe passe devant pour amener le repas à la maison. Il est immobile, personne ne peut le voir. Mais au fond de lui, c'est l'agitation. L'étranger Brusco qui vit avec eux depuis 2 ans maintenant a participé hier soir au concours de chant alors qu'ils étaient tous suspendus dans les hamacs dans la maison communautaire. Son frère avait défié un autre Indien pour un concours de chant. C'est les concours avec des histoires qui durent pendant des heures et il les chante et puis il se lance des défis par les chants. Et l'homme blanc qui était là, qui vit avec eux, qui a fini par apprendre leur langue, a participé à ce concours et là, il a parlé de quelqu'un. Celui qui est le dieu des dieux, celui qui est à l'origine de la forêt et qui a payé le prix du sang avec son fils pour qu'on ait plus faim dans notre cœur, pour que notre cœur soit comme notre ventre quand on a mangé et qu'il est plein. Et il sent bien qu'il n'est pas en paix. Il est là avec sa sarbacane et puis il attend et en même temps il réfléchit. Et même si c'est un des principaux guerriers de la tribu, il a peur. C'est une chose nouvelle. Ses ancêtres n'ont jamais fait ça. Et finalement, il se décide. Il ferme les yeux. Et puis, il parle au Dieu des dieux. Et puis, il lui dit, je veux accepter le prix du sang. Je veux que mon cœur soit comme quand mon ventre n'a plus faim. Et je veux être en paix. Et là, pour la première fois de sa vie, il ne voit pas passer la proie qui passe devant et il ne tire pas avec sa sarbacane. Parce qu'il vient de se passer quelque chose d'étrange. Il se sent pardonné. Et il rentre chez lui sans rien manger. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais quelqu'un d'autre aura réussi sa chasse. Dernière scène. Là, c'est loin de nous, mais c'est loin dans le futur. 2385. C'est l'histoire de Solène, planète Terre. Site de vie communautaire numéro 8592 B1. Solène saute de son propulseur à énergie solaire et suit la foule qui se rend à l'intérieur du bâtiment parfaitement intégré dans le flanc de la colline. Elle se rend dans son bureau et d'un geste fait apparaître un texte sur la paroi. Le texte du jour. Et puis elle le lit. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Elle sourit en pensant que dans les temps anciens, ces textes étaient écrits sur des objets fabriqués à partir d'arbres. elle en a vu une fois dans un musée. De drôles d'objets qui avaient l'air vraiment pas commodes à manier. L'idée qu'on ait pu couper des arbres pour faire ce genre de choses l'irrite un peu. Mais bon, c'était une autre époque. Elle s'installe à son poste de travail et avant de déployer son équipement, elle relit quelquefois le texte qui flotte encore dans l'air, puis des yeux grands ouverts, en contemplant le paysage exceptionnel qu'elle aperçoit par l'ouverture, elle murmure « Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour que je puisse connaître le seul vrai Dieu. Merci pour le pardon de mes péchés. » Le cœur en fait, elle se décide enfin à commencer sa journée de travail. Il y a un lien entre toutes ces histoires, bien sûr, vous l'avez compris. Hein. C'est que l'œuvre de Christ est celle qui permet que les hommes soient réconciliés avec Dieu, peu importe le moment où ça s'est passé. Le texte qu'on a lu dans Romains nous parle du temps de la patience de Dieu. Hein. Qu'est-ce que c'est ce temps de sa patience? Il est dit ailleurs, dans notre traduction, où il retenait sa main au temps de sa patience. À l'époque, la première histoire que je vous ai lue, lorsque le prêtre arrivait avec son taureau et l'égorgeait, et prenait le foie et les rognons et le reste, et le découpait, etc., parce qu'il avait péché, nous savons très bien, et lui savait d'une certaine façon aussi, que comment la mort d'un taureau pouvait faire que je sois réconcilié avec Dieu. Ça avait une valeur, c'était ce que Dieu avait dit de faire, ça avait un sens symbolique. Mais comment Dieu, qui sait toutes choses, c'est le même Dieu d'aujourd'hui, hein, pouvait se contenter de ça, hein. Dieu était pas, Dieu ne change pas, Dieu est éternel, il est infini, il est immuable. Donc le Dieu qui était Dieu, qui est Dieu, à l'époque de ce récit dans l'Ancien Testament, c'était pas un dieu barbare, brutal, qui dit, je vais boire le sang des taureaux, et puis je vais pardonner humain. Non, Dieu est esprit, et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu savait très bien que ce taureau n'avait rien fait. Qu'est-ce qui se passait? Dieu qui n'est pas lié au temps comme nous, comme je l'ai dit, et qui se tient au centre de l'histoire, avait déjà devant les yeux le vrai sacrifice, hein. Christ. C'est pour ça que la Bible, parmi les nombreux noms qu'elle donne à Jésus, elle dit « l'agneau immolé avant la fondation du monde ». Avant même que le monde soit créé, avant même que le péché entre dans le monde, qu'Adam et Ève fassent le choix qui est le leur, Dieu savait déjà et Dieu voyait déjà au présent le sacrifice de Christ. C'est le point central de l'histoire, c'est le point central de l'univers. Tout est relié à ce point-là, autant le passé que ce que nous appelons le futur, qui sera éventuellement le passé des gens qui viennent après nous si ce monde continue encore. Et il voyait ça. Et lorsque le bonhomme arrivait avec son taureau, tremblant devant Dieu de peur que le feu du ciel lui tombe dessus, Dieu, qui était dans ce que les hommes appelaient, pour eux, dans leur histoire, le temps de sa patience, retenait sa main, parce que la colère de Dieu contre le péché s'est abattue une seule fois dans l'histoire, une seule fois, en un seul moment. Pour nous, dans le temps, ça s'est passé en 33, 35, tous les historiens ne sont pas d'accord, 32, ça dépend, hein, lorsque Christ était suspendu sur un objet de torture fabriqué par les Romains, et la colère de Dieu, toute la colère de Dieu contre tout le péché, depuis le début de l'humanité jusqu'à, on ne sait pas quand sera la fin, toute la colère de Dieu pour tous les péchés est tombée dans ce point-là, à ce moment-là, sur Christ, et c'est ce qui l'a tué. Et dans ce moment-là, le Père a tourné le dos au Fils, et quand le Fils, en récitant le psaume 22, a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'a pas répondu à ce cri. C'est sûr qu'il a entendu, hein. Mais il n'a pas répondu, parce que sa colère était sur le Fils, à cause de nos péchés, à cause des péchés de tous les gens dans le passé, à cause des péchés que la terre va cumuler encore tant qu'elle va exister. Tout a été mis là. Et parce que Dieu avait ce sacrifice devant les yeux, lorsque le prêtre de l'Ancien Testament, lorsque les gens... quelques centaines d'années avant nous, lorsque des gens, dans quelques centaines d'années après nous, s'approchent de Dieu d'une façon ou d'une autre, dans une culture différente, avec une compréhension souvent quand même franchement différente, mais ils ont compris une chose essentielle, Christ est mort à notre place. L'agneau a été immolé. Et là, Dieu dit, je ne les frappe pas. Je retiens ma main. Et Dieu, en le faisant, est juste. Le texte nous dit, Dieu a frappé Christ pour que ce qu'il faisait au temps de sa patience soit considéré comme juste et que ce qu'il fait aujourd'hui soit considéré comme juste. Dans la justice parfaite de Dieu, le péché ne peut pas être excusé. Ça n'existe pas. Il doit être payé. Et Satan lui-même, l'ange déchu, l'ex-archange, a une compréhension très précise de la justice et de la sainteté. Il sait que le péché ne peut pas être excusé. Et lorsque, dans l'Ancien Testament, là je parle à la façon des hommes, dans le temps, hein, Dieu pardonnait à David, à Abraham, à Salomon, à tous les autres, à ces milliers d'inconnus qui s'approchaient de lui dans leur rite, dans leur tradition, dans leur façon de faire, et qui disaient « Dieu, pardonne-moi ». Dieu disait « Je vous pardonne ». Et Satan disait « Mais c'est pas juste, tu les pardonnes, mais tu prends pas leur vie en échange. Tu peux pas leur pardonner. Ils ont péché, ils doivent mourir, ils sont à moi. » Et Dieu répondait à Satan « Chut, c'est le temps de ma patience, mais regarde le jour. » Regarde le jour, l'agneau immolé. À cause de ça, je suis juste en les déclarant justes. Et puis, dans notre histoire, Christ est venu et on connaît tout le déroulement. On va fêter Noël, sa venue, sa vie, il est mort. Et là, ça a été manifesté. Tout ce que Dieu retenait dans l'histoire au niveau de sa colère, qui est tombé là sur Christ, et il a été révélé devant les hommes, mais devant les démons, devant les anges, devant le monde visible, invisible, que ces millions et millions de fois où Dieu a pardonné dans l'Ancien Testament, il était juste en le faisant. Et ce n'était pas à cause du taureau qu'on avait étripé. C'était à cause de Christ qui allait venir. Et pour nous, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre le salut dans l'Ancien Testament et le salut dans le Nouveau Testament. Et puis dans 3000 ans, si Jésus n'est pas revenu, ça sera pareil. Oui, les rites étaient différents, la compréhension était différente, la révélation est progressive, mais Dieu est le même et Christ est au centre de l'histoire. Et c'est pour ça que, on verra ça la semaine prochaine ou celle d'après, hein, lorsque Paul, en citant David, dit hein, ah, « La joie de celui qui est pardonné ». Lorsque quelqu'un était pardonné dans l'Ancien Testament et qui réalisait que « Ma conscience a été lavée, mes péchés ont été purifiés », il expérimentait la même chose que vous ou moi aujourd'hui quand, après avoir péché, je m'approche de Dieu et je dis « Seigneur, j'ai péché et je comprends que tu es mort pour ça et je l'accepte pour moi et je suis purifié hein, » selon 1 Jean 1, verset 9. Hein, si nous confessons, donc si nous reconnaissons devant Dieu, si nous homologuons ce que nous avons fait comme étant un péché, alors Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Même scénario que dans l'Ancien Testament avec le taureau. Et nous, nous sommes là et nous sommes reliés à ça. Et c'est extraordinaire de réaliser que notre communion avec les croyants, bien sûr, elle est là, comme je disais dans ma prière au début, ici, on est quelques-uns dans une salle et on est en communion les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a tous été rachetés au même prix, le sang précieux de Christ. On a tous la même valeur. Hein. La valeur de quelque chose, c'est le prix auquel on l'achète et nous avons tous été rachetés au même prix. Mais nous sommes aussi en communion avec tous les chrétiens à Moutier, en Suisse, en Europe, sur la planète, qui ce matin communient ensemble d'une façon ou d'une autre, dans une culture différente, de façon différente, parce qu'ils ont aussi été rachetés par le sang de Christ. Et puis ça inclut la nuée de témoins qu'il y a dans nous. Hein, tous ceux qui, par la foi, comme Abraham, ont salué de loin le jour de Christ. Ils l'ont vu, ils ont pressenti. Hein, Abraham et David et Moïse et tous les autres, et puis comme je disais, tous les inconnus. Plus tous ceux qui vont nous suivre. On ne sait pas quand ce monde va s'arrêter de tourner, quand Christ va décider de arrêter de le soutenir par sa parole et de le faire disparaître pour en mettre un nouveau. Ça arrivera un jour. On sait qu'il n'est pas éternel. Mais jusque-là, ça sera la même chose. Alors on va juste relire le passage que, avec lequel j'ai commencé. C'est lui, Christ, Romains 3, 25, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Et c'est tellement facile aujourd'hui pour nous de penser que c'est gratuit parce que nous ne l'avons pas payé. Et ce que ce verset nous rappelle, c'est que c'était une affaire tellement sérieuse qu'il n'y avait que la vie de Dieu lui-même qui pouvait la régler. Et puis, c'est vrai que c'est un message qui dit que ben, pour nous, c'est gratuit. Et pour nous, c'est gratuit parce que c'était très très cher pour Dieu. Le prix le plus élevé qu'on puisse imaginer. Et malheureusement, ben, voilà, nous vivons à l'époque où nous vivons, dans la culture où nous vivons, et nous avons en tant que chrétiens une mentalité d'enfant gâté, parce que c'est normal. Vous savez, quand on va dans un pays pauvre, puis vous voyez les enfants qui ont très peu à manger, puis ils reçoivent une tranche de pain, puis ils sont là, ils sont reconnaissants, on a l'impression qu'on leur a donné la vie, puis c'est ça d'une certaine façon. Et puis, bah, chez nous, non, j'aime pas la crème avec ça, non, je préférerais les épinards, c'est pas... C'est comme ça, j'étais pareil, on est comme ça, hein. Mais en tant que croyant, nous sommes comme ça. C'est sûr que ce prêtre qui se rendait dans la tente, il avait fait ses adieux à sa femme, à ses enfants, peut-être je reviens pas, je sais pas. Ils étaient conscients de ce qui se passait, du fait que le péché était lié à la mort. Il y avait des exemples concrets, hein. Lorsque, un peu plus tard, quand le temple sera construit et que le souverain sacrificateur, une seule fois dans l'année, pouvait s'approcher du lieu très saint, ça c'est pas la Bible qui nous le dit, mais l'histoire, on attachait une corde à la cheville du souverain sacrificateur. Pourquoi ? Parce que s'il avait commis des fautes, s'il avait fait quelque chose de travers, ou qu'il touchait ce qu'il fallait pas dans le lieu très saint, il pouvait tomber foudroyé par Dieu. Personne n'aurait pu aller chercher le corps, parce que quiconque rentrait dans le temple, dans cette partie-là, était foudroyé par la présence de Dieu. Donc le gars, il allait faire son service avec une corde à la cheville pour que, au cas où il serait foudroyé par la sainteté de Dieu, sans rentrer, on puisse tirer la corde et ramener le corps pour pas que ça sente jusqu'à l'an prochain. Vous imaginez quand il se rendait au culte, dans quel état d'esprit il y allait ? Il transpirait avant, hein ? Il espérait que le pardon des péchés était efficace. Et quand il ressortait, jusqu'à l'an prochain, Dieu m'a pardonné. Mais nous sommes dans la même situation. Nous n'avons pas une corde attachée aux pieds, ça se voit pas, mais nous sommes dans la même situation. Si Christ n'était pas venu, ça serait pareil. Mais il est venu, et nous l'avons, j'espère, compris, rencontré, accepté, il vit en nous, c'est ça être un chrétien. Et c'est ce qui fait que nous sommes liés avec tous les croyants sur la surface de la terre. Alors réjouissons-nous du pardon de nos péchés, et puis ayons cette compréhension de Christ au centre de l'histoire. Et nous sommes tous rattachés, comme ça, à ce point central, et c'est lui qui fait que nous sommes unis les uns les autres, que nous sommes liés, que notre vie a un sens, que notre histoire a un sens, et que nous pouvons continuer d'avancer vers notre futur sans crainte, parce qu'il est avec nous et que nous sommes en paix avec Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ces choses tellement grandes qu'elles nous dépassent. Tu nous dis que les anges même se penchent pour les contempler tellement elles sont belles. Et nous te demandons que tu puisses débarrasser nos esprits limités de notre façon étroite de voir, qui nous fait considérer ton pardon comme une chose due, comme une chose simple, comme une chose normale, que nous puissions réaliser le prix de ce pardon et que la reconnaissance puisse jaillir dans nos cœurs, que de cette compréhension notre amour en soit renouvelé, que notre émerveillement en soit nourri et que ce soit toutes ces choses-là qui nous poussent à t'obéir, à te suivre, à te donner nos vies, à te confier nos vies, parce qu'il n'y a rien de meilleur, parce que tu es le seul qui peut leur donner un sens et qui peut nous conduire jour après jour sur cette terre jusqu'au jour où tu nous prendras par la main et tu nous conduiras dans la gloire. Merci Seigneur Dieu.